Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant à l'écoute de Radio France Internationale, 5h30 à Paris.
Vincent Dublange.
Et 3h30 en temps universel, c'est le début d'Afrique Matin, une demi-heure largement consacrée au continent africain. On va débuter avec ce journal. On brosse le portrait du nouveau gouvernement aux Comores, nommé hier par le président Azali. Des ténors sont remerciés. La jeune garde prend du galon et le fils du chef de l'État est secrétaire général. Dans ce journal également, la jeunesse urbaine du Kenya ne baisse pas les bras. Elle manifeste, visiblement pas convaincue par les promesses de dialogue du président William Ruto. On va parler de ce phénomène en hausse et qui touche des zones jusqu'ici épargnées, les enlèvements d'enfants albinos dans le sud-est de Madagascar. Nous serons également avec la délégation olympique et paralympique béninoise, accueillie en triomphe hier dans un petit village du centre-ouest de la France. Les Comores ont donc un gouvernement un peu plus d'un mois après l'investiture du président Azali Assoumani fin mai. L'équipe dirigeante est au complet, une équipe qui fait la part belle aux fidèles du chef de l'État, réélu en janvier. Pas d'ouverture, comme cela avait été mis un temps sur le tapis. En revanche, le gouvernement voit sa moyenne d'âge baisser, 40 ans, soit 20 de moins que le précédent gouvernement. Les explications depuis Moroni d'Abdallah Mzembaba.
De l'équipe précédente, seul le ministre de l'Intérieur est resté en poste. Sur les 15 membres du nouveau gouvernement, il n'y a que deux femmes, Inayati Sidi, ministre de la Jeunesse, et Fatima Amada, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, jusqu'ici présentatrice à la télé nationale. Ahmed Ali Amir, conseiller spécial du chef de l'État chargé de la communication, revient sur cette nouvelle équipe.
Le président mise sans doute sur le renouvellement de la classe politique. Le président a fait le choix de la compétence, de la crédibilité des personnes nommées. Ils ont entre la quarantaine et la cinquantaine, c'est vous dire que le terme jeune est galvaudé ici. Je reconnais que c'est un challenge pour eux, donc un pari audacieux pour le président.
Pour l'opposition, ce gouvernement dit de rajeunissement n'est pas forcément synonyme de réussite. Et l'éviction de certains cadres, comme Houmed Msédié, ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, ne laisse pas indifférent. Fahmi Seyd Ibrahim, opposant et ancien ministre des Affaires étrangères.
Ce qui m'a le plus troublé, c'est de voir que des hommes politiques comme Saïdié soient évincés. C'est une personnalité de premier rang et qui a joué un rôle majeur pour stabiliser le pouvoir actuel, notamment après les élections.
Autre fait marquant, si la plupart des ministres entrants sont inconnus du grand public, ce n'est pas le cas du nouveau secrétaire général du gouvernement, Nour El Fattah Azali, jusqu'ici conseiller privé omniprésent de son président de pair, Abdallah Mzembaba Moroni.
Une nouvelle journée de mobilisation hier au Kenya, près d'une semaine après le retrait de la très contestée loi de finances. La protestation populaire se poursuit, portée notamment par de nombreux jeunes kenyans et kenyans. À Nairobi, plusieurs centaines de manifestants se sont rendus en centre-ville. Ils se sont très vite heurtés aux forces de l'ordre. Tout était mis en place, Gaël Lalex, pour éviter les rassemblements.
C'est en costume cravate que Kazmo Makaore, jeune pianiste, est venu manifester. Il laisse les armures aux policiers, lui préfère la tenue de citoyen.
Je suis dans la rue pour demander justice, pour demander que le gouvernement arrête de nous tuer, pour demander la paix. Quand on dit « Ruto doit partir », on n'appelle pas à l'anarchie. On appelle la jeunesse à demander la fin de la corruption, une nouvelle élection et le retour de l'état de droit.
À chaque rassemblement, la police tire des gaz lacrymogènes, elle sort les canons à eau. Réfugié dans un hall d'immeuble, Michel n'en peut plus.
La police devrait protéger les gens, mais dans ce pays, elle les harcèle. William Ruto est un menteur. Il se moque de la jeunesse. Pourtant, la jeunesse représente la majorité des Kenyans. Et elle parle d'une seule voix. Alors, ils déploient leur nez pour nous effrayer. Vous entendez? C'est mal. C'est de la folie pure.
La loi de finances est bien loin maintenant dans les esprits des manifestants. Ce qu'ils demandent désormais, c'est entre autres la fin des violences policières. Brenda s'interroge sur l'état de droit dans son pays.
J'ai peur d'être blessée, d'être arrêtée, que mes amis soient arrêtés. Vous pouvez marcher et vous retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Des manifestants sont toujours portés disparus, donc c'est effrayant. Cet usage excessif de la violence m'interroge. Est-ce que William Ruto veut vraiment nous écouter? Je ne me sens pas entendue.
William Ruto a lancé ce week-end les préparatifs pour un dialogue avec la jeunesse. La génération Z, quant à elle, appelle à poursuivre la mobilisation jusqu'à dimanche. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Au Kenya, les passants les appellent Muzungu, les blancs. Les femmes sont parfois violées car elles guériraient le virus du sida. Les personnes atteintes d'albinisme demeurent stigmatisées dans le pays. Cette maladie de la peau qui provoque le blanchiment de l'épiderme est toujours entourée de nombreuses croyances et les albinos les subissent. C'est aussi le cas à Madagascar où l'on constate en ce moment une hausse alarmante des cas de rapt, de torture sur les enfants atteints d'albinisme depuis novembre dernier dans le sud-est de l'île. Une dizaine de mineurs à la peau dépigmentée, âgés de 6 mois à 17 ans, ont été enlevés, certains violés, battus, tués. Et ce phénomène est nouveau dans cette partie du pays, Sarah Teto.
Leur différence physique nourrit des superstitions des plus dangereuses. On prêterait ainsi aux yeux des enfants atteints d'albinisme des pouvoirs magiques permettant de repérer même dans le noir des gisements de minerais précieux. C'est en tout cas ce qu'ont confié aux enquêteurs certains des ravisseurs arrêtés le mois passé dans le district de Mananzar après avoir exécuté l'enfant qu'ils avaient kidnappé et pour lequel ils n'avaient pas trouvé d'acquéreur. Sabine Laubert est la chef du bureau des droits humains sur l'île.
Au sud-est de Madagascar, nous croyons que ce sont des croyances néfastes et une augmentation de la crise humanitaire qui a aussi contribué à augmenter les attaques.
Dans l'urgence, les autorités essaient de placer en sécurité les enfants pris pour cible dans des centres ou des orphelinats qui acceptent de les accueillir. Une solution toutefois difficilement tenable sur la durée. Sur le continent, chez les pays voisins ayant subi des situations similaires, des stratégies nationales de lutte ont été menées. Les résultats sont positifs et pourraient bien être pris comme modèle.
Ce qui a bien fonctionné est baisser la violence en Afrique de l'Est sans un cadre complet pour assurer la sécurité d'une personne atteinte d'albinisme et leur famille et leur communauté, accès à l'éducation, accès à la santé et assurer l'emploi.
Des stratégies au long cours, mais nécessaires pour enrayer ce phénomène dramatique. Selon le Bureau des droits de l'homme, Madagascar serait désormais le pays dans lequel le taux d'agression contre les personnes atteintes d'albinisme est le plus élevé au monde. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Le président tchadien Mahamat Idriss Déby, visé par une enquête préliminaire en France, pour des soupçons de détournement de fonds publics et de recel, une source proche du dossier confirme à RFI ses investigations. Elles concernent les dépenses vestimentaires de la présidence de la République du Tchad. C'est le journal en ligne Mediapart qui avait révélé l'affaire il y a 6 mois. L'article faisait état de dépenses s'élevant à plus de 900 000 euros pour l'achat de costumes, de chemises, de vêtements de luxe. Dans son autobiographie, Mahamat Idriss Déby parle de manipulation politique venue, selon lui, d'un ancien ministre tombé en disgrâce. Mahamat Idriss Déby qui affirme préférer les habits traditionnels aux costumes. Ils sont en prison en Guinée équatoriale depuis 1 an et demi. Peter Huxham et Frédéric Potgieter, deux ingénieurs sud-africains qui travaillaient sur une plateforme pétrolière au large de la Guinée équatoriale, condamnés par la justice équato-guinéenne pour trafic de drogue à 12 ans de prison. Selon le groupe de travail de l'ONU spécialisé sur la question, ils sont détenus arbitrairement. Leur famille dénonce depuis des mois une affaire politico-diplomatique. Leur arrestation étant survenue dans la foulée d'une saisie par la justice sud-africaine de plusieurs biens du vice-président équato-guinéen dans la ville du Cap. Vice-président qui est lui-même poursuivi pour torture par un ancien détenu sud-africain. L'avis rendu par l'organe onusien redonne donc de l'espoir aux familles. Un espoir assez ténu tout de même, Romain Chanson.
Les libérer immédiatement serait la mesure appropriée, selon le groupe de travail sur la détention arbitraire. Leur incarcération est entachée de multiples violations des normes internationales relatives au droit à un procès équitable. Leur détention est arbitraire. François Nigrini, porte-parole de Peter Huxham, est soulagé par cet avis.
C'est une excellente décision pour les familles, c'est une avancée majeure. Ça confirme ce qu'on dit depuis le début. Ces deux hommes sont tout sauf des criminels ou des trafiquants de drogue, ils sont innocents.
Cet enthousiasme contraste avec l'esprit de l'avis rendu, car il ne statue pas sur l'innocence des Sud-Africains, ni ne conclut à une prise d'otage en raison d'un chantage politique, comme affirmé par les familles. De plus, cet avis est non contraignant, mais il aura des conséquences, espère François Nigrini.
Cette décision de l'ONU sur le pays et sur ses dirigeants va leur porter un coup très fort. Ils vont devoir rectifier le tir, sinon elle va avoir un impact sur l'économie de la Guinée équatoriale et les investisseurs.
Cette affaire ne semble pas inquiéter le pouvoir équato-guinéen qui n'a pas collaboré avec le groupe de travail malgré ses demandes. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de 185 personnes intoxiquées après avoir mangé du poisson et bu de l'eau contaminée suite au déversement dans des cours d'eau de déchets miniers issus de la mine d'or d'Ity, qui est exploitée par le groupe canadien Endeavour Mining. Aucun mort recensé. Les autorités locales, la société minière, assurent que les risques sont circonscrits. Les autorités locales ivoiriennes qui ont interdit la pêche et demandé aux habitants de ne pas boire l'eau du robinet pour le moment. De la pêche en rivière, partons au sud de la Côte d'Ivoire maintenant pour évoquer la pêche en mer et la gestion de la ressource, enjeu crucial pour le pays. Depuis deux jours, la Côte d'Ivoire observe ce qu'on appelle une période de repos biologique. Pêche interdite donc pendant un mois pour les pêcheurs artisanaux, deux mois pour les chalutiers semi-industriels ou industriels. La Côte d'Ivoire pêche par elle-même à peine 18% de ses besoins. Le pays demeure donc largement dépendant des importations de poissons. Dans la capitale économique, Abidjan, les pêcheurs ont bien conscience de l'intérêt de cette fermeture temporaire des pêches. Reportage Minta Diagne.
Au quai de pêche de Blokos, l'heure est au rangement. Certains pêcheurs profitent de ce temps calme pour fabriquer des filets. D'autres, comme Jean, rafistolent leur pirogue.
Avant, on partait, on ne dirait pas qu'on gagnait assez de poissons. Quoi. Mais maintenant, c'est des mecs. Ben, on a remarqué qu'il y a certaines espèces plutôt qui ont disparu. Surtout les capes rouges, les capes blanches qui disparaissent.
La production nationale de poissons a baissé de près de 34% depuis 2016. Pour reconstituer ses stocks, la Côte d'Ivoire observe pour la seconde fois un arrêt périodique de la pêche. Cette mesure coïncide avec la période des pluies durant laquelle les pêcheurs ralentissent déjà leurs activités, comme l'explique Ouria.
Non, on pêche pas plus. Après la pluie, seulement les poissons viennent. Après les 3 mois, 4 mois, on stocke. On fait les autres pêches.
Il faut donc trouver d'autres activités pour s'occuper. Ouria ramasse les déchets plastiques sur les bords de la lagune. Hippolyte, la trentaine, retourne travailler dans un garage automobile.
Quand je suis un mécanicien, voilà, donc souvent, quand la pêche donne, je stoppe un peu pour venir faire la pêche. Mais quand ça ne va pas, je reprends mon boulot.
Le gouvernement a mis en place un fonds de 100 millions de francs CFA pour accompagner les pêcheurs et les mareyeurs affectés par cette interdiction saisonnière. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Les sports, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, ça approche. Sur le terrain, en basket, les tournois de qualification olympique, les TQO, battent leur plein. La Côte d'Ivoire et le Cameroun tentent leur chance. On va en parler avec Olivier Pron dans le journal des sports dans une heure. Les délégations commencent aussi à arriver en France. C'est le cas de la délégation béninoise. Elle est dans le centre-ouest de la France, dans la Sarthe, précisément dans la petite cité de Montfort-le-Génois, village qui organisait hier une fête en l'honneur des Béninoises et Béninois. Dans la foule, Baptiste Leduc, reportage.
Oui, Nato, on peut l'applaudir, Valentin.
Accueillis en rockstar. Ou au son de leur musique traditionnelle, les athlètes olympiques et paralympiques béninois ne peuvent que se sentir chez eux à Montfort-le-Génois. Venu veiller sur les meilleurs sportifs du pays, Jimmy Adjovi-Boko, ancien footballeur aujourd'hui conseiller du ministre des Sports Benoît Dato, apprécie ces moments de partage.
C'est bien pour tout le monde, c'est bien aussi pour les athlètes de pouvoir s'échapper un petit peu, mais pas s'échapper trop parce que l'objectif, on sait où il est, c'est la compétition.
La compétition, Fessal Atchiba la vivra aux Jeux Paralympiques dans un peu plus de deux mois. On promettait aux sprinteurs une préparation tranquille à la campagne. C'était sans compter sur les enfants de l'école primaire de Montfort.
Aujourd'hui, au cours de mes entraînements, ils sont venus me supporter. L'accueil a été très chaleureux, je ne m'attendais pas à ça.
Fessal et ses compagnons reçoivent du soutien et rendent de l'inspiration. Comme Enzo, les 700 Montgénois présents à la fête sont admiratifs et reconnaissants. Le jeune Sartois avait un peu le trac avant de présenter son club de kinball.
On ne se doutait pas un jour monter sur une scène devant des grands athlètes dans une petite ville comme ça, un peu perdue de la Sarthe. C'est une fierté un peu en tant que Montgénois.
Jusqu'au 24 juillet et le départ pour le village olympique, il y aura un morceau de Bénin au beau milieu de la Sarthe.
Merci Baptiste Leduc. Elle est française d'origine sénégalaise et mauritanienne. Elle a longtemps vécu au Nigeria. Avant de s'installer à Paris, rencontre ce matin sur RFI et pour terminer ce journal avec la chanteuse Samsara Weed, 44 ans et un long parcours semé d'embûches derrière elle. Carmen Lunsman.
Elle vient de l'univers de la néo-soul avec une voix qui va sous la peau.
Je fume des blondes, je me tape Jack Daniels. Est-ce que ça fait de moi une...
À travers des mots malicieux mais sincères, Samsara Weed peint aussi bien la condition des femmes que sa propre vie. Celle d'une battante qui est allée loin dans la Star Academy en 2001 et encore plus loin au Nigeria. Où elle a vécu 9 ans.
Les âmes rêveuses dansent sur ta chaussée.
Mais c'est à Paris, après avoir vaincu une maladie grave, qu'elle reprend un nouveau souffle artistique. Introspection, ces 4 titres entre engagement et émotion vont jusqu'à l'enfance.
À toi, petit ange délaissé.
Des chansons qu'elle écrit dans le calme de la nuit pour en sortir des messages d'autant plus lumineux et une musique qui touche l'âme.
On n'a plus le temps de réfléchir, de rêver, de s'écouter, de kiffer. On court après l'argent,
On court après la santé, on court après la beauté, on se berce d'illusions. Il faut savoir se poser.
Et je combats chaque jour pour nos rêves.
Sam Sarawid et son nouvel EP Introspection, c'est le choix musical du jour sur RFI. Rendez-vous 7h50, temps universel, tout à l'heure avec donc Carmen Lunsman et Nathalie Amar. Deux autres EP suivront cet été et cet automne pour Sam Sarawid.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr.
Afrique Matin sur RFI. Vincent Dublange.
Et le deuxième acte d'Afrique Matin débute à Anjouan, aux Comores. On va y être dans un instant. Un mot du programme pour la suite. Afrique Économie à Bangui, en Centrafrique. Saison des pluies, saison des fruits. On prend le pouls de la filière mangue. Autre filière, autre arbre fruitier, l'olive et son huile très recherchée. Chine, Arabie Saoudite, Égypte, ils veulent tous en produire plus, mais c'est l'Europe pour l'instant qui domine. Le manque de stock tire les prix vers le haut. On rejoindra ensuite nos confrères de La Première pour faire le tour, comme tous les jours, de l'actualité à Mayotte et La Réunion. Et pour commencer, nous sommes donc toujours aux Comores, dans la ville de Moutsamoudou, cité capitale de l'île d'Anjouan, l'une des trois îles de l'archipel de l'océan Indien. Gestion des déchets, restauration du palais des sultans, Moutsamoudou tente de se faire belle, malgré le manque de moyens, on l'a entendu ces deux derniers jours. Les habitants aussi, les habitantes surtout, tentent de se faire belle. Ce sont des femmes de Moutsamoudou dont il est question pour ce troisième épisode de la série de reportages de notre correspondant. Il y a peu de salons de beauté là-bas. Les coiffeuses, les maquilleuses se déplacent. Abdallah Mzembaba.
C'est chez elle, dans une pièce de sa maison, située au cœur de la médina de Moutsamoudou, que Fayrou s'occupe de ses clientes. Ce matin, elles sont trois. La mère de famille, coiffeuse Rine, pendant que ses autres clientes, confortablement installées sur le canapé, discutent entourées de produits de beauté.
J'ai commencé ce travail en 2021. Dans mon salon, je maquille des mariés, mais pas uniquement. Je coiffe aussi, je pose des faux ongles. C'est surtout pendant les vacances que l'activité est intense. Dieu soit loué.
Alhamdulillah. Fayrouz est mère de deux enfants et elle se déplace souvent pour satisfaire ses clientes. Le prix de ses services varie. Une simple coiffure coûte 5000 francs, tandis qu'un mariage traditionnel, qui nécessite plusieurs jours d'un travail minutieux, peut atteindre les 200 000 francs. À Moutsamoudou, la beauté féminine ne se limite pas à la coiffure et au maquillage. À 19 ans, Riana Youssouf Bakar est étudiante en gestion, mais elle a surtout une passion depuis 11 ans, le henné. Ses dessins éphémères, tatoués à même la peau, sont très prisés des femmes de Moutsamoudou et Riana, souhaitant faire son métier à plein temps.
Grâce à cette activité, je peux me payer le taxi pour la fac ou acheter des choses sans avoir à le demander à ma mère ou à mon père. J'aimerais un jour ouvrir un salon pour le henné, mais je n'ai pas encore trouvé l'endroit et surtout le financement.
Parmi ses clientes fidèles, Haïda, une jeune mariée de 22 ans.
Je le mets pour n'importe quelle occasion, tel le jour de l'Aïd, un mariage ou juste pour faire plaisir à mon mari. Personnellement, c'est quelque chose qui me fait plaisir, moi en premier.
La beauté aux Comores, ce sont aussi les fleurs, une tradition ancestrale que Mariama Mikitadi perpétue grâce au collier qu'elle crée. Chez elle, le parfum suave des fleurs envahit l'espace, mêlant les notes enivrantes du jasmin, du patchouli et du basilic sacré. Chaque collier est une création unique, un bouquet parfumé porté à même la peau lors de multiples cérémonies comme les mariages.
On a hérité cette pratique de nos ancêtres et quand on a grandi, on a pris la relève. Pendant les vacances, louange à Dieu, je vends beaucoup de mes créations car les mariages sont nombreux. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le métier.
Abdallah Mzembaba, Moutsamoudou, RFI.
Le dossier Afrique Éco en Centrafrique dans une minute. Avant cela, on fait un tour de l'actualité internationale de ce mercredi 3 juillet, J-4 avant le second tour des élections législatives en France. Le dépôt des candidatures s'est refermé hier. Environ 220 candidats se sont désistés pour éviter des triangulaires et faire barrage à l'extrême droite du Rassemblement National. Des triangulaires qui devraient n'avoir lieu finalement que dans une petite centaine de circonscriptions. Au Royaume-Uni, les législatives ont lieu demain. Les travaillistes, emmenés par Keir Starmer, sont les favoris des sondages après 14 ans de pouvoir conservateur. Joe Biden aux États-Unis ira-t-il au bout? Les poids lourds du Parti démocrate s'interrogent sur l'état de forme du président sortant, candidat à sa réélection en novembre, après le calamiteux débat contre Donald Trump jeudi dernier. Dans la bande de Gaza, environ 250 000 personnes appelées par l'armée israélienne à évacuer des secteurs de l'est de Rafah et de Khan Younes avant une probable nouvelle opération militaire dans ces zones. En Centrafrique, saison des pluies rime avec saison des mangues. Cette période qui va généralement de mars à juin est une aubaine pour les Centrafricains qui possèdent des manguiers. La vente des mangues permet d'alimenter ménages et petits commerces. Afrique Économie, signé Rolf Steve Domialeux à Bangui.
Des mangues mûres sur toutes les branches. Dans ce champ de 20 hectares à proximité de Bangui se trouvent 7 manguiers. En Centrafrique, pas de grandes plantations. Armand Koulayom, le propriétaire et entrepreneur, profite du bénéfice de ces mangues en les revendant à un grossiste.
Vraiment, chez nous, chaque ménage a quand même un ou deux manguiers dans la concession. Donc ça, on peut dire que c'est une bénédiction pour la RCA. Et pendant l'époque des mangues comme ça, les mangues sont trop moins chères.
À quelques pas de ce champ, au bord de la route, les mangues sont vendues dans des cuvettes, des bassines, des sacs ou étalées sur des tables pour attirer les clients. Les prix varient selon les variétés et les grosseurs. Juvenal est un vendeur de mangues.
Comme vous voyez, je vends un tas de 5 mangues à 50 francs CFA. Tous les jours, les revendeuses viennent acheter mes mangues dans des sacs et des cuvettes. Il y a plusieurs modèles de sacs et chez moi, les prix par sac varient de 5 à 7 000 francs CFA.
En Centrafrique, la cueillette se fait de manière artisanale. Certains utilisent des bâtons au bambou, d'autres préfèrent grimper directement dans l'arbre. Julienne, une commerçante, profite de cette période pour développer d'autres affaires.
Chaque jour, je gagne entre 4 000 et 4 500 francs CFA. En 12 jours, je m'en sors avec 50 000 ou 55 000. Cet argent me permet de couvrir les besoins de ma famille. Je fais aussi de l'épargne qui me permettra de me lancer dans un autre commerce durable après la saison des mangues.
Mais à Bangui, il se pose un problème de conditionnement. Il y a peu de chambres froides pour conserver les fruits et il n'existe pas d'entreprise de transformation. Armand Koulayom estime que ce secteur est plein de potentiel.
Pour relancer ce secteur, on dit qu'il faut avoir une vision. Il faut chercher des opportunités de crédit. On demande même au gouvernement de chercher des possibilités au niveau de Banque mondiale, au niveau des banques pour accompagner déjà ceux qui font dans les transformations des jus naturels en mangue, des confitures en mangue, pour les accompagner, d'avoir des machines pour faire ça d'une manière industrielle et exporter pour développer notre pays.
Ce secteur encore très informel et limité représente cependant aujourd'hui une source de revenus importante pour de nombreux ménages. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Et ce dossier Afrique Éco, tout comme ceux des derniers jours dans l'est de la RDC en Ituri, sont à retrouver sur RFI.fr. Cela fait 2 ans que la production d'olives baisse de manière inédite dans le bassin méditerranéen et cela fait flamber les prix de l'huile d'olive. Même si la prochaine récolte s'annonce meilleure, il est peu probable que cela change la donne pour les consommateurs. Marie Perolfan.
Après 2 années de sécheresse, les prix de l'huile d'olive ont atteint un niveau exorbitant. Plus de 8 euros le kilo en vrac pour le prix de référence en Espagne, premier exportateur mondial. Ce qui se traduit par des huiles extra vierges vendues entre 10 et 15 euros le litre. La dernière production n'a pas permis d'apporter de répit sur le marché. Elle pourrait baisser encore de 100 000 tonnes. Ces 2 années douloureuses pour la filière ont réduit les stocks à un niveau historiquement bas. Et même si la prochaine récolte remontait, comme certains le prédisent déjà, il y a peu d'espoir de revenir au prix de 2022, explique l'ancien patron du Conseil oléicole international. Une fraction de la production devra en effet réalimenter les stocks et ne sera donc pas mise sur le marché. La semaine dernière, les acteurs de la filière ont partagé toutes leurs inquiétudes à Madrid à l'occasion du premier Conseil mondial de l'huile d'olive. Ils ont évoqué ensemble les solutions pour faire face à des scénarios de plus en plus complexes. La réalité climatique est là, le bassin méditerranéen est une région qui se réchauffe 20% plus vite que la moyenne. Les agriculteurs misent aujourd'hui sur de nouveaux modèles d'irrigation, comme des systèmes de goutte à goutte. Certains migrent vers des régions plus arrosées ou choisissent d'autres variétés d'oliviers pour les zones à très faible pluviométrie. Dans les petits pays producteurs, la tendance est à l'agrandissement des surfaces plantées. C'est le cas en Arabie Saoudite, en Géorgie ou encore en Chine, où la culture de l'olive se consolide, avec parfois de très bons résultats en termes de qualité. D'autres États se sont fixés des objectifs chiffrés et ambitieux. 1 million d'arbres pour la Libye, 120 millions pour l'Égypte. Mais en attendant, c'est toujours l'Europe qui assure 60% de la production et qui détient la clé des prix.
Marie-Pierre Olfant, merci. 7h55 à Saint-Denis de la Réunion, on rejoint nos confrères de la Première. À la une ce matin, l'alerte des syndicats de l'éducation de l'île de la Réunion au sujet des classes surchargées. Bonjour Tiziana Marone.
Bonjour. La surpopulation des établissements scolaires du département est pointée du doigt par le SNELC, le syndicat national des lycées et collèges. Exemple avec le collège du Tampon, où c'est un problème récurrent dénoncé depuis plusieurs années par les professeurs et les parents d'élèves. À la rentrée prochaine, l'établissement va accueillir 950 élèves, soit 50 de plus par rapport à sa capacité. Les explications de Jérôme Mottet, vice-président du SNELC, au micro de Suzette Emma de Réunion La Première.
Dans les classes, on est toujours à une moyenne de 28, c'est-à-dire qu'on arrive à 30 dans certaines classes. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas reconnu dans l'éducation prioritaire, malheureusement. Pourtant, l'État nous met un contrat local d'accompagnement, mais qui ne nous donne aucun moyen structurel pour l'établissement. Et pourtant, on a des catégories socioprofessionnelles défavorisées et l'effectif est inacceptable. On dépasse les 800-850, ça commence à devenir ingérable. Les violences vont augmenter et il faudrait vraiment permettre aux élèves qui doivent arriver encore sur la commune du Tampon, parce que le 17e est très attractif, il manque un collège d'ailleurs, il faudrait permettre de déroger à la carte scolaire et envoyer ces collèges dans les établissements où il manque des classes, où on est en sous-effectif.
Et à La Réunion, comme partout ailleurs en France, fin du dépôt des candidatures hier pour le deuxième tour des élections législatives. Dans le département, on assistera essentiellement à des duels entre le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Comment expliquer cette percée historique du RN à La Réunion et plus en général en Outre-mer? Ce vote en faveur de l'extrême droite s'explique par un ras-le-bol profond des populations. Il est aussi le fruit d'un travail méthodique des ténors du RN pour dédiaboliser le parti. Les explications de Jules Bourga d'Outre-mer La Première.
Des vidéos courtes sur les réseaux sociaux où Jordan Bardella, président du Rassemblement National, joue la carte du jeune séducteur. Le RN a maîtrisé sa communication durant la campagne, selon Christiane Raffidina-Rive, chercheuse au Centre politique de Sciences Po Paris.
Le RN investit massivement dans la communication à l'échelle nationale et à toutes les échelles. Et cette communication, bon, elle passe surtout les réseaux sociaux. Quand vous avez 13 millions de followers pour Jordan Bardella.
Mais il n'y a pas que sur Instagram et TikTok que le RN a séduit ces dernières années. C'est ce qu'explique Damien Deschamps, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de La Réunion.
Le vivier, il est quand même relativement récent. On observe en tout cas une montée de l'extrême droite après l'élection de François Hollande. Derrière l'idée de ras-le-bol, c'est en fait que l'offre politique ne répond plus à leurs attentes ou à leurs angoisses. Les électeurs sont un peu en attente d'un sauveur.
Et le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a su viser juste pour apparaître comme celui qui répond aux attentes de nombreux ultramarins. Christiane Raffidina-Rive.
La stratégie même du RN, ça a été de déracialiser son discours pour que ce soit accepté en Outre-mer. Et l'autre aspect, c'est donc d'avoir ce discours, cette préoccupation du quotidien, la préoccupation du pouvoir d'achat, une offre politique qui réponde à ces difficultés très concrètes.
À l'échelle nationale, le Rassemblement national a obtenu plus du double des résultats par rapport au premier tour des élections législatives de 2022.
Jules Bourga, d'Outre-mer La Première. À Mayotte, pas de liaison maritime depuis dimanche entre la Grande et la Petite Terre. Les agents du service de transport maritime ont fait valoir leur droit de retrait pour dénoncer des conditions de travail dangereuses pour le personnel et pour les passagers. Les rotations ont été assurées hier uniquement pour le transport des véhicules prioritaires et des élèves qui passaient l'examen final du brevet. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup Tiziana, bonne journée également. À la une du prochain Journal Afrique sur Radio France Internationale. Dans une demi-heure, enquête préliminaire pour des achats de costumes de luxe contre le président tchadien en France. Et puis sur notre appli RFI et sa page Afrique, l'expulsion d'un Malien malgré la mobilisation des passagers d'un vol Paris-Bamako. Et également cette conférence internationale sur le reboisement qui s'est ouverte au Congo-Brazzaville. Il est là, il s'installe. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour à vous Vincent Dublanche.
Vous allez bien?
Ça va bien et vous?
Très très bien. Bon. À tout à l'heure?
À tout à l'heure, bien sûr. RFI matin jusqu'à 10h heure de Paris. Dans un instant, le journal. On vous parle bien sûr des élections législatives en France. dans quelques jours, le second tour maintenant. Et on a la liste de tous les candidats qui seront présents lors de ce second tour dimanche prochain. Notre invité tout à l'heure, le député sortant de la France Insoumise de l'Essonne, Antoine Léaumont, il défend les couleurs du nouveau Front Populaire. Rendez-vous à 8h20, heure de Paris.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Sénégal, si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'est pas modifié d'ici au 15 juillet, le Premier ministre Ousmane Sonko menace de ne pas prononcer son discours de politique générale devant les députés, mais devant une Assemblée citoyenne. Comprenez-vous cette décision ?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.